Pourquoi les croix et les statues vont être voilées au premier dimanche de la Passion? Deux raisons pour cela, mais c'est classique, je vous le lis. Du côté de la croix, dans les premiers siècles, elle était de métal précieux et ornée de pierreries parce qu'on ne représentait pas le corps de Jésus. C'était horrible. Pour eux, c'était la mort de l'esclave, la mort du rejeté. Et quand même, pour des Romains qui voyaient des corps crucifiés, d'avoir le corps de Jésus sur la croix, ils ne l'avaient pas. On considère que l'une des premières représentations de la crucifixion de Jésus date des années 300. Et elle est sur une des portes du 4e siècle de la basilique Sainte-Sabine des Dominicains à Rome. Ils ont eu cette basilique qui est du 4e siècle, mais une des portes en bois date du 4e siècle. Et c'est la première fois qu'on représente Jésus crucifié avec les deux larrons. Bon, une des premières fois. On représente des croix, on présente le chiro, c'est-à-dire... Mais de là à représenter Jésus sur la croix, il y a quelque chose de terrible pour eux. Et donc les croix étaient des croix latines, grecques, et quand elles étaient pas peintes, elles étaient en métal, mais c'était la victoire du Christ. On les levait comme un signe de victoire. Aussi convenait-il d'en voiler l'éclat à l'époque où la gloire du Christ est comme voilée par ses souffrances. L'Église revêt ainsi son voile de veuve et ses habits de deuil. C'est pour cette raison aussi que l'on nommait le Gloria, Patri et Filio. À partir de dimanche prochain, on ne dira plus le Gloria. Et aussi le lavabo. C'est-à-dire que, non pas que les prêtres doivent pas se laver les mains avant la messe, mais c'est le Gloria du lavabo. C'est-à-dire, on dit le psaume « Seigneur, lave-moi les mains, que je serai pur », mais on ne dit pas le Gloria, et on ne dit aucun dans la messe. Et le psaume de communion aussi. De notre côté, ces voiles sont un signe expressif de notre condition de pécheurs et d'exilés. Par nos fautes, nous sommes séparés du ciel et du Christ qui y règne. Il nous faut attendre la mort du Christ sur la croix, alors seulement nous pourrons à nouveau contempler le Christ triomphant. Et le voile du Saint des Saints sera déchiré et la croix glorieuse apparaîtra à nos yeux. Prenons du temps pour contempler le Christ dans sa passion et méditer sur ses souffrances, par exemple en faisant le chemin de la croix, dans les 14 stations qu'il y a dans une église, ou chez soi, voyez, et en relisant les récits de la Passion dans les évangiles. Alors, vous aurez aussi les saints qui sont voilés, mais parce que, justement, l'intercession des saints est comme suspendue, on se tourne uniquement vers la pénitence et vers la prière dirigée vers le Christ, et les saints, les saintes, les statues s'effacent. Oui. Alors quand vous avez peint partout, on met pas des tentures violettes sur toute l'église. Voilà. Oui. Et la Vierge Marie aussi. Elle s'efface devant la souffrance de son fils. Alors, le temps de la Passion, donc, dans ce premier dimanche, vous avez un dimanche où l'évangile est très court et c'est la violence et le refus de l'incarnation. C'est le refus de Dieu. Et il ne faut pas penser que c'est le... Comment dire? Qu'on est dans le... Par rapport aux Juifs qui refusent leur Messie. C'est nous qui refusons la venue et la présence de Dieu. Chez nous, dans notre vie. En ce temps-là, Jésus disait à la foule des Juifs, Jean chapitre 8, versets 46 à 59, « Qui de vous me convaincra de péché? Si je vous dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu entend les paroles de Dieu. C'est pour cela que vous n'écoutez pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu. » À un moment donné, Dieu en a marre. Dieu est lassé. Et fatigué. Jésus est saint. Jésus ne fait pas de péché. Donc, il veut que les hommes le reconnaissent, que un être humain, une personne humaine, peut être sans péché. Et il leur reproche de ne pas le voir en lui. Qu'il y a plus que la sagesse de Salomon. Qu'il y a plus que la prédication de Ninive. Et que c'est le Saint des Saints qui est venu jusqu'à eux. Qu'il est le Messie. Alors on va dire, oui, mais au début, il disait qu'il fallait pas qu'on dise qu'il était le Messie, tout ça. Mais à la Samaritaine, il le dit. Parce que il veut ne pas scandaliser les Juifs au début. Mais à un moment donné, il y a suffisamment d'éléments, suffisamment de miracles qui sont finis par se faire connaître. Et il fait des miracles publics. Il guérit les malades par centaines. Faites attention, certains prêtres ou des exégètes, les foules lui présentaient les malades et il les guérissait tous. Donc, c'était pas, on a des malades dans la famille, bon non, et toi non, bon, on en présente une quinzaine, ils sont là, ils sont 5 000, donc voilà, on a 15 malades. Et Jésus dit, bon, ça va être facile, hein, voilà. Il va un peu plus, oui, bien sûr. Vous n'avez pas des malades dans vos familles? Ça vous intéresserait pas d'aller voir un Padre Pio ou un Saint Curé d'Ars? Vous voyez? Mais bon. Et donc, le Christ manifeste sa sainteté et surtout, il pardonne les péchés. Et ça, théologiquement, c'est pas possible. Les pharisiens, plus particulièrement, réagissent et disent, il ne peut pas pardonner les péchés. Il n'y a que Dieu qui pardonne les péchés. Et le prêtre, lorsqu'il vous donne l'absolution, il vous donne au nom de la Sainte Trinité, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous pardonne vos péchés. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque vous entrez en confession, vous lui dites pas, pardonnez-moi mon Père parce que j'ai péché. Et là, il déchire sa soutane, il dit, qui suis-je pour pardonner vos péchés? Ébouriffé, tout ça, il sort du confessionnal en se roulant par terre. Tout ça, blasphème. Mais calmez-vous, qu'est-ce que je dois dire? Bénissez-moi parce que j'ai péché. Voilà, on se calme. Retournez dans la boîte. Voilà. Et c'est pas pardonnez-moi parce que j'ai péché. Je peux pas vous pardonner. Ou alors, pardonnez-moi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit parce que j'ai péché. Ça vous à la limite. Je peux pas vous donner une claque à travers la grille, donc si vous faites les insolents, pardonnez-moi au nom de Jésus parce que j'ai péché. Voilà. Donc c'est bénissez-moi parce que j'ai péché. Voilà. Et voyez-vous, c'est très beau de se dire que c'est ce qui fait réagir les plus sincères. Mais comment peut-il pardonner les péchés? Et il va faire exprès de les pardonner publiquement à Marie-Madeleine, à la femme adultère, à la femme qui, Marie-Madeleine, qui lui verse ce parfum sur lui. C'est pour ma sépulture qu'elle a versé ce parfum. Voilà. Qui de vous me convaincra de péché? Il faut le faire quand même. Vous savez, dans l'apologétique, dans la défense de la foi, Jésus dit qu'il est sans péché quand même. Il est Immaculée Conception, Jésus. La Vierge Marie, elle, quand elle le dit, c'est une grâce de Dieu. Mais qui êtes-vous? Il y a Monsieur le curé qui me demande qui êtes-vous. Hein? Donc elle sourit, tout ça, elle répond à côté. Elle est quand même juive, hein, la Vierge Marie. Hein, donc voilà. Et donc, et là, le 25 mars. Hein, et le curé, moi je te croirais pas, dis-moi son, elle te dit pas son nom, hein, cache-cache. Et donc, elle est là, et là, est-ce que vous pourriez me dire, non, votre nom? Ou la quatrième fois, ou la troisième, quatrième fois. Et là, la Vierge Marie est plus lumineuse que d'habitude. Tout d'un coup, elle devient encore plus lumineuse. Elle lève les mains. Elle dit, je suis l'Immaculée Conception. En patois pyrénéen. Isoi Immaculada de Conception. Et là, vous avez Bernadette. C'est quoi? C'est, oui. Alors, elle le mémorise, elle le répète, elle le répète. Il soit immaculate, c'est quoi? C'est et donc, elle part au presbytère, et elle arrive. Issoi Immaculata de Conception, puisqu'elle l'avait appris par cœur, et voilà. Et là, le curé, en patois, comment elle a pu, le 25 mars, le jour de l'incarnation, et voilà. Et là, le curé se met à pleurer, parce qu'il se dit, mais mince, la Vierge Marie apparaît à cette jeune femme, cette jeune fille, 14-16 ans, je crois. 14 ans. Et il pleure, parce que, 4 ans avant, vous avez la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception. Voilà, et donc, pour lui, c'est extraordinaire. Voyez. Et donc, Jésus dit, « Qui de vous me convaincra de péché ?» C'est donc le temps de la Passion, la Semaine Sainte, c'est l'innocent. Jésus est à Béthanie, le lundi saint, ou le mardi saint, ou le mercredi saint. Il est là. Et vous avez Marthe qui prépare le repas. Béthanie, c'est un village qui est un peu éloigné de Jérusalem. Et vous avez Lazare qui est là, qui était ressuscité. Donc il est en bonne forme. Hein. Vous avez les Juifs qui viennent de temps en temps pour voir. Il était mort. Il était, lui, là, lequel ah, oui, il a 50 ans. Oui, bah, bon, ah, il a l'air en forme. Bon, mais il voulait voir un mort qui ressuscite. Bon. Et donc... vous avez Marthe qui prépare le repas et vous avez Marie-Madeleine qui est là et qui écoute notre Seigneur, qui parle dans la pièce du repas, là, puisque c'était des tables basses, on était à moitié couché pour manger. Et là, Marthe passe et dit, Seigneur, vous pourriez quand même lui dire de m'aider. Et là, notre Seigneur lui dit, Marthe, Marthe, tu te soucies de beaucoup de choses. Elle a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas retirée. Mais c'est joli parce qu'il dit Marthe, Marthe. Hein, il dit deux fois son prénom. Hein. C'est extrêmement rare dans la Sainte Écriture. Hein. Donc c'est, Jésus lui fait pas un grand reproche. Hein. Il lui dit simplement, c'est bien, je te remercie de ce service. Mais la vie contemplative et spirituelle l'emportera. Et vous avez ensuite, comment dire, est-ce que c'était ce jour-là? C'est dans les 3 jours saints avant le jeudi saint et le vendredi saint. Vous avez Marie-Madeleine qui prend un flacon de nard, dont 300 deniers... C'est 300 jours de salaire, c'est donc 10 mois de salaire. Au SMIC, c'est l'équivalent donc 1500 euros, 15 000 euros. Donc vous allez aux Champs-Élysées, si vous trouvez une vitrine encore debout, et puis vous avez... aux Champs-Élysées, vous avez une boutique arabe, mais arabe, saoudienne, émiratie, où ils vendent des parfums, où ils vendent du nard. J'étais rentré à un moment donné, parce qu'ils vendent de l'encens ou des parfums, et je lui ai demandé, est-ce que vous avez du nard? Et il m'a dit, pas, on vend, c'est des préparations particulières, en effet, des choses qui seraient très très chères, nous on n'en a pas. Enfin, on a des choses chères, vous avez ce flacon à 1000 euros, ou tout ça, mais à 15 000 euros, revenez la semaine prochaine, ou voilà, bon. Et donc, si vous imaginez 10 mois de salaire, elle casse le col parce que ceux qui vendaient de tel nectar, de tel nard, les mettaient sans doute dans des récipients de valeur, de l'albâtre, ou elle casse. Et c'est pas pour refermer le flacon, hein. Elle casse le col et elle le verse sur la tête de notre Seigneur. Et ce parfum descend la tête, comme le dit le psaume, hein, comme le parfum qui descend de la et qui imprègne la barbe d'Aaron, hein, quand on lui verse l'huile d'allégresse, hein, l'huile parfumée, et ça descend, ça descend, ça descend. Et imaginez, toute la maison est remplie de ce parfum. Parce que normalement, on met une goutte, hein, donc. Et vous avez Judas qui est là, déjà souffrant de sa déception. Vous voulez que le Messie soit puissant, qu'il soit aux côtés du Messie. Et en plus, cet argent gâché, on aurait pu donner aux pauvres. Mais non, non, non. C'est parce qu'il prenait dans la bourse. C'est lui qui tenait la bourse. C'était le premier économe. Hein, souviens-toi que le premier économe était Judas. Hein, c'est ce qu'on met sur la porte des économes dans les diocèses, n'est-ce pas? Voilà. Et donc, il dit, on l'aurait donné aux pauvres. Voyez. C'était déjà... Donc, vous avez... J'ai coupé. Hein. Et donc, si vous voulez, la religion du soin des pauvres sans le soin de l'âme des pauvres, c'est du pipeau. Vous voyez, Saint Vincent de Paul s'est occupé des pauvres et de leur âme en priorité. Et il a fait des choses extraordinaires pour le soulagement corporel des pauvres, mais bien plus extraordinaires pour le salut de leur âme. Et il détroussait toutes les femmes de la cour en disant « Oh, vous avez un magnifique collier, vous en avez combien ? Vous en avez combien ? Monsieur Vincent, vous en avez combien ? 5 ? Vous pourriez m'en donner 2 ? Il vous en resterait 3 ? » Eh bien, il récupérait beaucoup d'argent à la cour du roi, Louis XIII, et il transformait ça. C'était impressionnant. À Paris, il avait monté des hôpitaux, des hospices. C'est incroyable ce qu'a fait Saint Vincent de Paul. Mais c'était au nom de Jésus-Christ. Et il a toute une partie de cet argent, il en a fait des séminaires pour que les prêtres soient bien pieux et formés. Toute une partie de l'argent qui était récolté par Saint Vincent de Paul, c'était les séminaires. Et vous avez actuellement un des grands séminaires qui a été construit fondé par Saint Vincent de Paul, c'est celui qui est en face de Saint-Sulpice et qui actuellement, depuis 1905 ou la Révolution, je ne sais pas, plutôt 1905, l'hôtel des impôts. Voilà. Celui qui est de Dieu entend les paroles de Dieu. Et donc là, le premier dimanche de la Passion, on sait bien que ça va être très violent. Et c'est un évangile très violent. C'est pour cela que vous n'écoutez pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu. Les pécheurs lui dirent, oui, les juifs lui dirent, mais c'est les pécheurs lui dirent. N'avons-nous pas raison de dire que tu es un samaritain et que tu es un démon? Voilà. Tu nous pousses dans nos retranchements, tu veux qu'on soit totalement sincère dans notre religion, tu veux qu'on prie vraiment, tu veux qu'on aime vraiment, et on le supporte pas. Non, en fait, tu es un hypocrite, tu, voilà. Vous voyez, Saint François d'Assise, quand il a vécu vraiment la pauvreté, le pape à l'époque, il a eu peur que ça soit un dingo. Et il y avait des dingos. Donc il a observé, il a écouté, et il a vu que c'était une pauvreté respectueuse du pape, des évêques riches et des riches. Eux étaient pauvres et n'allaient pas reprocher aux riches d'être riches. Mais il disait aux riches, donnez aux pauvres de votre surplus. Et si vous voulez, donnez tout et rejoignez-nous. Et donc ils vont à Rome, à la cour pontificale, avec le pape qui avait un anneau. Vous voyez ? Je sais pas ce qu'il y avait, un topaz ou machin, une émeraude hein, de 300 grammes. Et là... Oui, non, il l'a pas. Non, 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 il laissait. Voilà, référence à ce que vous auriez pu entendre. Et Saint François d'Assise lui demande bénissez mon ordre, mon institut. Et le pape, un peu inquiet de ce communiste, socialisant, machin, il a un songe où il voit ce même homme empêcher l'Église de tomber. Vous voyez. Et il lui donne son approbation. Jésus répondit, « Je n'ai pas de démon en moi, mais j'honore mon Père, et vous, vous me déshonorez. Pour moi, je ne cherche pas ma gloire. Il en est un autre qui la cherche et qui fera justice. » Ah, ça rigole plus, hein. Ah, c'est fini, hein. Jésus, doux et humble de cœur, hein. C'est, « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur, mon fardeau est léger. » Et ben là, « Pour moi, je ne cherche pas ma gloire, il en est un autre qui la cherche et qui fera justice. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Les Juifs lui dirent alors, « Maintenant, nous sommes sûrs que tu as un démon, car Abraham est mort, comme les prophètes, et toi tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu donc plus grand qu'Abraham, notre père, qui est mort ? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être ? Les miracles, multiplication de nourriture, bonté, sainteté, remise des péchés, tout, tout, tang ! Vous voyez ? Quelle hypocrisie, quelle méchanceté ! Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites qu'il est votre Dieu. » Mais vous ne le connaissez pas, tandis que moi je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais comme vous, un menteur. Vous voyez, la vraie religion, en esprit et en vérité, hein, révélée à une Samaritaine qui porte une cruche d'eau. Il lui parle plus profondément qu'à Nicodème. Il arrive un temps où le Père veut être adoré en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Vous, vous adorez au mont Garizim et vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons à Jérusalem et nous adorons celui que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais arrive un temps où ce n'est ni au mont Garizim ni à Jérusalem que vous devrez adorer. Et c'est là où Jésus se trouve dans la Sainte Hostie au tabernacle. C'est très bien d'aller à Rome, c'est très bien d'aller à Jérusalem, de mettre ses pas dans les pas du Christ. Mais vous avez Rome et Jérusalem ici, dans toutes les églises. Alors vous pouvez avoir envie de faire le pèlerinage. Moi, j'ai pas encore fait le pèlerinage de Terre Sainte. Donc avant la guerre nucléaire, après la guerre nucléaire, je retrouverai pas beaucoup les lieux, je pense. Ou si vraiment il y a une guerre conventionnelle, hein, mais qu'on rase bien, hein, pour reconstruire le temple, et on rase bien, quoi. Voilà. Ça ressemblera plus à un parking qu'au lieu saint, vous voyez. Donc, une belle esplanade avec un beau temple, n'est-ce pas, et eau nue, vous voyez. Mais là, bon. Eh bien là, mais je le connais et je garde sa parole. Et là, la magnifique parole, c'est notre espérance. Abraham, votre père, a tressailli de joie à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Abraham souhaitait le bonheur éternel, souhaitait la venue du Sauveur, et Dieu lui a accordé de le voir. Abraham a vu la vision de Jésus. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'incarnation. Je suis désolé, hein, il a vu mon jour. Donc il n'a pas vu la Sainte Trinité dans une gloire, il a vu Jésus. Et il s'est réjoui. Et là, alors là, les Juifs lui dirent alors, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. » Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, avant Abraham, je suis. » Avant qu'Abraham fût, je suis. Et je suis, c'est le nom de Yahvé, hein, le nom de Dieu. Donc il est en train de dire que c'est lui qui a parlé dans le buisson ardent à Abraham. Alors, ils prirent des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus se cacha et sortit du temple. Eh bien, voyez-vous, quelle est notre leçon pour nous ce soir ? C'est de vous dire que nous n'avons pas à trouver des boucs émissaires pour notre salut. Nous-mêmes, il est des moments dans notre vie où nous ne croyons pas en la divinité de Jésus-Christ, où nous ne croyons pas en son incarnation, parce que la vie est trop difficile, parce que elle est décevante, ou parce que ça nous demande trop d'efforts. Et en fait, on remet en cause la révélation, on remet en cause la venue de Dieu sur terre. Pourquoi ? Eh bien, par pure mauvaise volonté, par paresse ou par malice. Et alors, je pense pas que pour vous ça soit par malice, parce que en fait, vous voulez faire vos affaires et que Dieu vous importune dans le mal que vous faites. Mais vous pouvez, dans votre vie quotidienne, dans votre vie familiale, dans vos amitiés, dans votre voisinage, dans des membres de la famille plus ou moins éloignés, ne pas avoir envie d'être généreux, ou au moins de réfléchir à la raison pour laquelle vous ne voyez plus telle ou telle personne, et ce qui vous blesse, et ce qui devrait vous blesser. Parce que un des grands enseignements de Dieu, c'est, vous qui êtes pécheur, vous n'avez pas assez de bonté pour souhaiter que les malicieux se convertissent et vivent et soient heureux. Vous voulez être les seuls à être sauvés? Vous ne voulez pas pardonner? Eh bien, mon Père ne vous pardonnera pas. Vous voyez, l'enseignement moral du carême, c'est une très grande exigence de conversion personnelle, mais sur ce qui nous fait mal. Si vous êtes un tueur à gages, le fait d'arrêter votre métier, tout dépend. Si vous avez un compte en Suisse, si vous avez déjà suffisamment d'argent, de manière vertueuse, vous dites au prêtre, ça y est, je viens me confesser, ça fait 10 ans que j'ai pas pu me confesser, parce que bon, j'avais toujours des contrats, tout ça, le prêtre me disait que je pouvais recevoir l'absolution que si je prenais la décision ferme et définitive de ne pas continuer mon métier. Mais là, ça y est, j'arrête. Et là, le prêtre lui dit, mais l'argent que vous avez eu, vous devez le rendre. Oh, il y en a un que j'ai tué. L'autre, c'est un yakuza. Vous voulez que je lui rende un yakuza? Il m'a fait venir au Japon pour dessouder un de ses ennemis. Moi, j'ai jamais tué ni femme ni enfant, que des truands. J'étais spécialisé dans le meurtre de truands. J'avais que des contrats de truands contre des truands. C'est injuste ce que vous me dites. Le confessionnal tremble un peu, et là le prêtre, droit dans ses bottes. Vous devez rendre cet argent. Et si vous ne pouvez pas le rendre, parce que ce sont des crapules, mais donnez-le aux pauvres. Mais tout ce que vous avez gagné injustement ne peut pas rester chez vous, ni sur un compte en banque à votre nom. Vous devez tout rendre. Et là, et c'est la condition de l'absolution. Sinon, au revoir. Même pas une petite bénédiction. Que tu sois béni par celui en l'honneur duquel tu brûleras. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous voyez, c'est la prière de l'encens. Vous voyez. Eh bien, nous sommes appelés à une conversion très profonde. Et ça ne sert à rien de suivre tout ce temps de la passion si on ne comprend pas tout cela. Vous voyez. Et le Christ va affronter la mort. Il va guérir Lazare. Et il va vers Jérusalem, et c'est Philippe ou Thomas qui dit, de manière collective, ou je sais plus qui, mais on cherche à te tuer, on va pas retourner vers Jérusalem, proche de Jérusalem, c'est pas possible. Et je sais plus si c'est Philippe ou Thomas qui dit, allons et mourons avec lui. Et donc il se rapproche de Jérusalem, et à Béthanie où était Lazare, c'est proche de Jérusalem. Et en plus, Jésus ressuscite Lazare. Alors là, si vous voulez, à Jérusalem, ils disent, là, il faut le tuer. Non seulement il faut tuer Jésus, parce que ressusciter un mort qui était en décomposition, c'est pas possible. Mais vous vous rendez compte qu'il se pose même pas... Mais il a quand même ressuscité un mort décomposé, c'est pas... Non, ça, alors là, ça c'est une grosse, trop grande, quoi, preuve. Et il réfléchissait aussi à tuer Lazare. Si vous vous souvenez bien du passage de l'évangile, il fallait tuer Jésus, mais aussi tuer Lazare, le pauvre. Il venait de ressusciter et bon. Mais une résurrection naturelle, hein, pas résurrection pour la vie éternelle. Lazare est mort une deuxième fois, et semble-t-il, à Marseille. N'en déplaise aux exégètes. Mais non, ils sont pas là, ils maintiennent, Marie-Madeleine n'était pas là, elle n'était pas là, Sainte-Baume, les maris de la mère n'étaient pas là, et tout ça, mais ils étaient là. Et retirer son nom à la gare Saint-Lazare, si vous osez. Puisque c'est la gare qui va vers Marseille, si je ne me trompe. Mais... Non, c'est pas ça. C'est la gare de Lyon maintenant qui va. Mais la gare Saint-Lazare, c'était pas en l'honneur de. C'est la Normandie, la gare Saint-Lazare? Non, c'est pas l'hospice Saint-Lazare. Ou l'hospice Saint-Lazare à côté. Mais vous voyez, mais Lazare, c'est le. Ils ont été. On a décidé de les tuer de manière assez cruelle. On les a mis dans un bateau sans mât. Et. Au large, pour qu'ils meurent de soif. Eh bien, le bateau a été conduit jusque sur les côtes de la côte d'Azur. Oui. Eh bien, voyez-vous, pendant ce temps de la Passion, donc, est-ce qu'il y a un autre catéchisme avant la Semaine Sainte? Non. Donc, je ne peux que vous inviter à rentrer, puisque le dimanche d'après, mais c'est le dimanche des Rameaux, c'est la Passion. Et voilà. Alors, examinez-vous sur votre manque de foi et sur le fait que vous vous révoltez parfois, de manière indirecte, c'est vrai, contre l'incarnation, contre la divinité de Jésus, contre sa passion, sa mort innocente, mais sur la présence de Dieu, si vous voulez. Qu'est-ce que nous donne cet évangile ? C'est pour qu'on soit antisémite qui nous est donné ? Non. Ça veut dire que nous-mêmes, nous refusons pratiquement de croire en la divinité de Jésus-Christ. Si Jésus fait ses reproches à ses contemporains, c'est qu'il nous les fait maintenant. Et donc, on refuse de croire en sa divinité. On dit, mais bon, Abraham n'avait pas 50 ans et il t'a vu. Mais comment peut-il être Dieu? On ne peut vivre la Passion que si on croit en l'incarnation et en la divinité de Jésus-Christ. J'ai fait un sermon dimanche matin à la messe de 9h45. Je ne sais pas comment je suis arrivé parce que je réfléchis. Et j'écris jamais parce que quand j'écris, de toute façon, j'ai une autre idée et ça sert à rien. Et pour un mariage, j'avais écrit mon sermon. Tout bien, parce qu'il y avait 300 personnes, ça. Je suis parti sur autre chose. J'ai laissé mes feuilles. Mais c'était bien, j'avais bien tapé, bien écrit. C'était dans mon style, quand même. J'aurais pu lire. Mais ça m'est impossible de lire. Je peux pas mettre le ton en lisant. Donc, c'était parti. Et j'ai prêché sur autre chose, d'ailleurs. J'avais là. J'ai pris un tiers, environ. Et donc, et là, à la fin, aux deux tiers de mon sermon, j'ai dit, parce que, là, si vous voulez, un thème de prédilection chez moi, une marotte, c'est pour ça que c'est une vraie souffrance de m'entendre faire, c'est pour ça que je fais venir des prêtres et que, parce que si je me répète trop souvent, à la fin, vous en pourrez plus. Dire que j'ai été à Saint-Pierre de Chaillot pendant 6 ans, j'ai dit la messe du samedi soir pendant 6 ans. À la fin, les gens, ils connaissaient ma spiritualité, hein. Il pouvait, ça c'est le sermon machin, ça c'est le sermon truc. Et là je leur disais, quand vous vous levez le matin, hein, vous vous réveillez, vous machin, vous vous lavez, vous mangez, vous dites bonjour à vos personnes présentes, à votre famille, vous. Mais la religion, c'est de reconnaître la présence de Dieu. Quand on se réveille le matin, normalement on devrait dire bonjour à Dieu. Lui, il dort pas. Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, Seigneur Jésus, je vous offre ma journée par les mains de Marie. Mon bon ange gardien veille sur moi. c'est le bonjour. Parce que dès que vous êtes conscient que vous n'êtes pas seul. C'est ça la religion naturelle. C'est ça que les aborigènes croient, que les Esquimaux croient, que les Incas et les Aztèques croyaient, même si c'était le soleil et qu'ils devaient absolument alimenter le soleil. Mais ils croyaient en l'existence de Dieu. Ils parlaient à Dieu. Eh bien, la vraie religion, c'est de parler à Jésus. Parce que la vraie religion, c'est pas seulement l'existence de Dieu, c'est pas seulement la prière adressée à Dieu, c'est la prière adressée à Dieu incarné. La vraie religion, c'est l'incarnation. La vraie religion, c'est que, enfin, on peut le voir, Dieu. Il a fait une image de lui, fini l'interdiction des images. Il s'est montré à travers une créature. Oui, mais c'est l'amour du Créateur pour sa créature qui est dans le corps de Jésus que l'on voit, dans la nature humaine de Jésus que l'on voit. Qui me voit, voit le Père. Or, le Père ne s'est pas incarné. Donc, c'est l'amour du Père qui est dans l'incarnation. Il n'y a pas que le Fils. La religion, c'est l'incarnation. La religion, c'est de parler à Jésus. La religion, c'est de parler à la Sainte Trinité, qui s'est fait homme. C'est pour ça que, en soi, les musulmans et les juifs ont besoin de progresser encore dans leur prière. Ils ne prient pas en Dieu parfaitement. Le vrai Dieu, c'est Dieu incarné. C'est pas Dieu tout-puissant. La vraie religion, c'est l'incarnation. Et qui dit incarnation, dit présence du Saint des Saints. Et dit offrande du Saint des Saints. Et dit rédemption. Et dit crucifixion. Et dit résurrection. Et pour qu'il y ait une rédemption, il faut une incarnation. Pour qu'il y ait une résurrection, il faut une nature humaine. Notre religion, c'est l'incarnation. Nous ne sommes religieux et croyants que parce que nous croyons que Dieu s'est fait homme. Il n'y a pas d'autre religion. Toutes les autres religions sont des ébauches, sont des maladresses, presque. Et depuis qu'il s'est manifesté, le peuple juif ne peut pas se limiter à l'attente du Messie et de la présence du Dieu Tout-Puissant. Les musulmans ont fait un judaïsme. Et avec un Jésus prophète, c'est la différence avec les juifs. Mais qu'est-ce qui sauve les juifs, qu'est-ce qui sauve les musulmans? C'est l'incarnation. À leur mort, lorsqu'ils ont été pieux et sincères, ils voient Jésus qui les juge. Vous voyez? Et donc, le temps de la passion, le temps du carême, c'est de comprendre que Dieu s'est fait homme et que nous avons à répondre à la divinité de Jésus-Christ. C'est ça, faire son carême. C'est ça, faire ses Pâques. C'est recevoir Dieu fait homme. Et donc, nos péchés, face à cela, ça sera du passé. Vous savez, dans la vie éternelle, vous ne penserez plus à vos péchés. Dieu nous a créés pour le futur. Dieu nous a créés pour Pâques. Alors, pour l'instant, on est sur le chemin de croix et... il y a des moments où c'est le vendredi saint, des moments où c'est jeudi saint dans nos vies, des moments où c'est le dimanche de Pâques dans nos vies. Mais à un moment donné, ça sera Pâques. Oui.